Pascal Toussaint s'est fait piéger aussi par ces milieux financiers et c'est la raison pour laquelle l'administration qui a été longtemps une auberge espagnole est devenue une sorte de Fort Knox et que Pascal Toussaint ne recevait plus, et ses agents évidemment qui sont spécialisés dans les roulings, ne recevaient plus d'interlocuteurs dans ses bureaux. Ça a beaucoup choqué.
Iwer Dausen Mordabischte, responsabel für Iwer Tolschen von Ressate vom Staat. Steuerverwaltung aus ohne Zweifel eng von den wichtigsten Verwaltungen am Land. Mit Personalmangel und fehlender Digitalisierung ist er aber ganz schlecht im Zustand. Wie also zu den Problemen von der Steuerverwaltung kommt, war das Troll von der Direktor Pascal Toussaint und was sind Prioritäten vom neuen Finanzminister Gilles Roth. Darüber schwätzen ich mit Veronique Pujol, Journalistin von Reporter.lu, sie wird von ganz nur dabei von der Steuerverwaltung noch die Steueraffäre für ihr Gericht. Mein Name ist Laurent Schmidt und ihr leistet Reporter on the record, der Podcast über die Hintergründe von der Aktualität zu Lützburg. Véronique, tu as révélé en octobre que Pascal Toussaint, la directrice de l'administration des contributions directes, était sur le départ. L'annonce de recrutement pour un nouvel directeur ou une directrice était un des derniers actes de Yuriko Backes comme ministre des Finances. Pourquoi on est arrivé là?
Alors oui, c'était en effet un des derniers actes qui a été posé par Yuriko Backes. La ministre des Finances traînait pour lancer le processus de recrutement parce qu'il s'est fait vraiment pendant les négociations de coalition. Et on savait déjà depuis l'été que les relations entre Madame Toussaint et le gouvernement étaient mauvaises et que donc la patronne d'une des administrations les plus importantes du Luxembourg avait échoué à réaliser la réforme de la digitalisation. En fait, c'est le principal reproche qu'on lui formule. Et puis, l'autre reproche qu'on peut lui faire, c'est que son management a vraiment été défaillant et qu'elle a vraiment perdu la confiance des agents de l'administration des contributions directes.
Il faut dire que l'administration est dans un très mauvais état, comme l'a montré aussi un audit externe. Tu as écrit d'un malaise et de frustration des agents. À part la digitalisation, quels sont les problèmes ?
L'administration est dans un état lamentable. L'audit de Boston Group a documenté en long et en large le profond malaise qui se manifeste par des burn-out, par des départs de personnel, des démissions. Et alors, chose extrêmement rare, c'est des personnes qui renoncent à leurs responsabilités et qui ne veulent plus avoir comme interlocuteur les dirigeants de l'administration des contributions. Et puis, on a un problème aussi de surmenage parce que, suite à un problème de recrutement, les gens ne veulent pas aller travailler à l'administration des contributions malgré les campagnes qui ont été faites. Donc les gens sont sous l'eau, ils sont submergés par le travail. Et alors, il y a une explication, c'est que les procédures de déclaration d'impôts sont vraiment d'un autre âge.
Juste pour donner un exemple, dans les bureaux d'imposition des sociétés, un fonctionnaire doit traiter en moyenne 1200 dossiers déclaration fiscale par année. Donc c'est énorme, on peut même pas s'imaginer que c'est faisable.
Oui, et puis il y a un autre souci, c'est que qui montre qu'ils sont vraiment la tête sous l'eau, c'est que il y a toujours chaque année des rappels pour rentrer ces déclarations d'impôts. Et normalement les rappels sont envoyés en juillet et en octobre. Là, on a eu les rappels au mois de décembre, qui fait que les déclarations sont pas rentrées. Donc les agents des différents bureaux d'imposition de Luxembourg vont être submergés. Et là, on se demande si on va pas avoir un délai jusqu'à mars pour les remises de déclarations. Donc c'est grave parce que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État.
Le manque de fonctionnaires est accentué par un retard énorme dans la digitalisation, tu l'as dit. Comment cela impacte le travail des agents ?
Ça impacte, je parle d'un contribuable personne physique, télécharge sa déclaration sur guichet.lu et puis donc on pense qu'on les remplit électroniquement et puis ensuite elles sont retranscrites à la main par les agents. Et pourquoi ? Parce que les serveurs sont tellement obsolètes, il y a tellement de systèmes qui s'interposent les uns les autres et qui sont pas forcément compatible, que ça ne marche pas. Et Yuriko Backes a vraiment pris la mesure de l'indigence de l'administration des contributions en août dernier, lorsqu'elle a fait une visite du bâtiment Fort Wedel. Et alors, les échos qu'on en a eus, c'est qu'elle a été scotchée par la vétusté des serveurs. Je pense qu'elle se rendait pas compte à quel point ça ne marchait pas. Et effectivement, c'est le grand problème de l'administration.
Mais l'audit du Boston Consulting Group que tu as déjà cité, il est arrivé à une conclusion aussi, je cite, « L'État n'a commencé qu'en 2014 d'investir dans l'infrastructure et l'informatisation de l'administration. » Donc, si il y a un retard en 2014, ça veut dire que il y a aussi une responsabilité d'un certain Luc Frieden, ministre des Finances jusqu'en 2013. À quel point on peut établir sa responsabilité dans les retards de la digitalisation?
Je pense qu'il y a une responsabilité qui est collective entre Juncker et Frieden. Frieden a quand même été l'homme des rulings, le sponsor numéro un de Marius Kohl, le préposé du bureau des impôts le plus célèbre au monde.
De par LuxLeaks, de par
sa médiatisation. Et en fait, Marius Kohl a signé les rulings à tour de bras. Son bureau, c'était rendez-vous des firmes Big Four qui trouvaient des arrangements pour alléger au maximum la fiscalité des clients. Donc ça a donné l'affaire LuxLeaks, avec cette fuite de documents qui a montré que l'administration des contributions sous-traitait des arrangements avec la firme PwC. Ça, c'était sous le mandat de Luc Frieden et c'est l'héritage des années Frieden. Et je pense que Marius Kohl est aussi une invention des années CSV, Frieden et Juncker. Frieden avait aboli le secret bancaire, mais dans le même temps, il a fait de Luxembourg un sanctuaire d'optimisation fiscale pour les multinationales. Il leur a ouvert des autoroutes pour contourner les règles de la transparence fiscale. Et peut-être c'est ce qu'on vit. Et on n'a pas investi dans un service public de qualité.
Effectivement, ce qui est intéressant, que cette approche a totalement changé, même si l'organisation du fisc pose problème. L'administration des contributions directes est par contre très combative en justice et défend bec et ongle ses moyens pour agir contre la fraude fiscale. Ça s'est montré dans plusieurs affaires devant la justice que tu as suivies en 2023. Et cette année a commencé avec un cas un peu particulier. C'est en fait le boucher Guy Kirsch, très connu, qui a été condamné pour fraude fiscale aggravée. Pour des sommes, il faut le dire, assez modestes. Mais le procès a débouché sur une question de principe, laquelle ?
Alors, ça a remis en question, et ça, c'est ce qu'on appelle un perroquet chez les fiscalistes. Ça revient pratiquement chaque année. C'est la loi générale des impôts de 1931, qui est un héritage allemand, qui montre évidemment ses insuffisances pour sanctionner de façon appropriée les montages abusifs et les manœuvres d'évitement d'impôts. Cette loi, elle est de 1931. Il y a eu très peu de réformes ou des réformes qui se sont additionnées sans véritablement de cohérence. Alors, donc, les multinationales, ça a commencé par ça, ont été sanctionnées. Et puis, les petits entrepreneurs qui ont été aussi la cible de... parce qu'il y avait de toute façon des fraudes à l'origine. Et donc, le boucher Guy Kirsch a été prévenu de fraude fiscale. Le cas était assez simple. On l'accusait d'avoir déduit des frais de déplacement privés avec des voitures de luxe sur le compte de la société. On ne va pas livrer de la viande avec une Maserati. Donc, il s'est retrouvé devant les juges correctionnels pour fraude fiscale. C'est vrai que ce n'était pas important. C'était 35 000 euros. Donc, mais ce qui est important, c'est que son projet a vraiment ouvert des joutes entre les avocats fiscalistes et le parquet pour mettre en cause les dispositions donc, de la loi fiscale sur la répression de la fraude. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais cette loi générale des impôts, ça ressemble quand même à un zombie parce qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux de la fiscalité internationale qui a énormément évolué et par rapport à des fiscalistes qui prônent toujours encore le moins d'impôts. C'est leur credo, c'est leur bible. Donc, les experts se font un plaisir d'attaquer ce dispositif dès qu'ils en ont l'occasion. Ça s'est vu donc pour Panama Papers où les avocats d'affaires ont participé à des montages offshore. Ils ont été soumis à des redressements fiscaux. Ils ont fait un procès, ils ont gagné. Ça n'a pas été le cas de Guy Kirsch, mais on n'était pas loin quand même. Et là, la loi de 1931 a tenu le choc. Le parquet a eu très peur d'un retournement et d'une jurisprudence et qui aurait fait vraiment échec aux poursuites pénales en relation avec la fraude fiscale. Donc ça mettait à plat tous les efforts que Luxembourg et que la justice a fait jusqu'à présent pour vraiment réprimer la fraude fiscale.
Ce zombie dont tu parlais a aussi joué un rôle dans une affaire visant EY, un des Big Four. Et là, dans cette affaire, c'était la première fois qu'un réviseur avait reçu une amende de l'administration fiscale pour un montage trop osé. Avait l'administration, dans ce cas-là, réussi le pari?
Ah oui, en fait, là, l'administration fiscale sanctionne EY pour complicité de fraude fiscale d'une multinationale, donc qui a elle-même été sanctionnée. Et 5 000 euros d'amende, mais c'est vraiment la première fois que le FIS s'attaque à un prestataire qui a contribué à des manœuvres abusives pour dissimuler les revenus d'un tiers. Donc ça, c'est nouveau. Et même scénario, EY conteste son amende, c'est rien, c'est 5 000 euros. Et elle nie toute faute morale dans la structuration fiscale agressive. Et en pénal, il faut toujours qu'il y ait l'intention.
En première instance, l'amende a été annulée.
Oui. Et donc, l'amende a été annulée. Ce qui est bien, c'est que l'administration va faire appel, donc par principe, donc pour montrer qu'on ne défie pas le fisc aussi facilement. Et sur le principe, c'est assez important pour dissuader les opérateurs, les avocats, de participer à des montages fiscaux agressifs.
Un autre cas dans lequel un Big Four a poussé l'optimisation trop loin est celui de Deloitte. Et là, comment l'administration a procédé pour y mettre fin?
Alors là, c'est de la cuisine un peu interne avec comment on a réussi à accéder à ce dossier. On va pas revenir là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est, même si on n'est pas à tax the rich, c'est quand même, on voit qu'il y a un souci de la part de l'administration de l'équité, que tous les contribuables soient traités un peu sur le même pied, ce qui est d'ailleurs pas le cas parce que si on parle des familles monoparentales, par exemple, il y a une discrimination évidente. Mais là, on est dans l'optimisation fiscale des Big Four. Et ce qui est intéressant, c'est que les plans de stock option étaient vraiment devenus voyants. Et depuis des années, quand Graminger est arrivé au ministère des Finances en 2013, il a relevé le taux à 21%. Et évidemment, l'imagination des fiscalistes étant sans limite, ils ont trouvé un autre filon pour optimiser leurs revenus. Et donc, celui de la fiscalité de l'épargne, qui a un taux de 20%. C'est-à-dire sur les intérêts de l'épargne, on paye 20% d'impôts. Et donc, ils ont mis en place un programme d'obligations qui ont été lancés, dans lequel ils investissaient leurs bonus, qui normalement, un bonus est taxé au taux maximal, donc plus de 40%. Et donc, le système leur a permis, globalement, au lieu de payer sur des revenus qui sont extrêmement importants, qui dépassent le million par an, et million, c'est même peut-être un petit salaire pour un petit associé, equity. Donc, on est arrivé, au lieu de 42%, on est arrivé à 32, 33, 34% sur des salaires quand même extrêmement élevés. Donc, surtout des gens qui travaillent à Luxembourg, qui sont des résidents, enfin pas tous, mais ils sont des résidents. Et la fiscalité de l'épargne, à l'origine, était conçue pour l'épargne populaire. Elle n'avait pas vocation de servir d'ersatz aux stock options qui étaient de moins en moins justifiables aux yeux des politiques. Et donc, on a mis en place ce système. Il y a eu des redressements, ils ont été contestés. Le tribunal, pour le moment, a conforté la position du fisc, mais il va y avoir un appel. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir et on ne sait pas non plus quelle sera la position du nouveau gouvernement qui semble quand même avoir des a priori favorables pour les stock options, hein, et même si les stock options ont changé de nom en prime participative.
Effectivement, c'était intéressant durant les négociations de coalition. Il y a toujours les lobbies différentes et variées qui envoient des notes aux formateurs. Et là, il y avait par exemple l'AmCham, donc l'association des entreprises liées de loin ou de près aux États-Unis, qui écrivait d'une évolution négative des relations avec l'administration fiscale. Ou encore, il y avait l'association des acteurs du private equity, donc l'LPEA, qui écrivait l'absence d'une approche collaborative de la part de certaines administrations fiscales. On a un peu l'impression que la tête de Pascal Toussaint a été présentée au lobby pour les apaiser ou c'est trop loin
Non, pas du tout. Dans les recherches que j'ai faites, on m'a parlé vraiment d'une mise à prix de la tête de Pascal Toussaint, qui n'est pas seulement détestée en interne, mais elle ne s'est pas fait d'amis en externe, et notamment chez les fiscalistes et les avocats d'affaires qui en ont fait une cible. Et donc, effectivement, ces milieux reprochent aux dirigeants de l'administration d'être anti-business. Hein, et on revient à ce que je disais tout à l'heure au sujet de Marius Kohl. C'est une administration qui a longtemps toléré, pour ne pas dire encourager, les montages fiscaux qui ont réduit à presque rien les bulletins d'imposition des grandes firmes. On revient au fait qu'il y avait une volonté politique de Frieden et Juncker pour faire entrer d'une manière ou d'une autre en disant qu'il y avait un phénomène de ruissellement, et même si les multinationales ne payaient pas vraiment d'impôts, elles embauchaient du personnel et ça avait l'effet d'un ruissellement. On ne connaît pas d'ailleurs cet impact qu'a eu cette politique. Donc, bien sûr, donc maintenant, Pascal Toussaint s'est fait piéger aussi par ces milieux financiers, et c'est la raison pour laquelle l'administration, qui a été longtemps une auberge espagnole, est devenue une sorte de Fort Knox, et que Pascal Toussaint ne recevait plus, et ses agents, évidemment, qui sont spécialisés dans les roulings, ne recevaient plus d'interlocuteurs dans ses bureaux. Ça a beaucoup choqué. Il y a eu des petits malins qui ont enregistré à leur insu des conversations avec des agents qui simplement étaient des réflexions qui étaient totalement informelles. Oui, on pourrait traiter tel cas de cette manière. Ils ont enregistré, ils ont retranscrit et ils ont vendu ces retranscriptions à leurs clients. Ces retranscriptions ou ces faux rulings ou rulings informels se sont retrouvés dans les bureaux de la Commission européenne, qui a fait une enquête. Bon, l'enquête a abouti à rien du tout parce que l'administration était hors de cause, mais ça a créé quand même du trouble à Luxembourg, et ça a quand même jeté un certain doute sur l'authenticité de l'engagement du Luxembourg à vraiment se mettre au pas en matière de règles et de transparence fiscale.
Donc le nouveau ministre des Finances, Gilles Roth, veut quelqu'un qui fasse du fisc une administration moderne, qui voit le contribuable comme un client et qui digitalise tous les processus autant que possible. Ça, il l'a dit dans l'RTL Background, dans une interview. À quel point est-ce que ça répond aux attentes des agents, mais aussi des milieux business?
C'est vrai que le ministre a fait des déclarations qui montrent sa détermination à moderniser l'administration. Et que, je ne sais pas si la comparaison, elle est très heureuse de dire qu'un contribuable, c'est un client. Bien que, quand on met en place un contact center, c'est pour faciliter les relations entre le contribuable et l'administration. Parce que quand on téléphone à l'administration, on est baladé d'un service à l'autre et on n'a pas la réponse. Et là, on attend quand même d'avoir un interlocuteur qui nous fournisse une réponse et qui soit efficace. Sauf que je ne crois pas que le fisc n'est pas un supermarché, c'est vraiment un service public. Et bien sûr qu'il faut une administration qui soit ouverte, avec des agents qui sont au service de l'intérêt général. Et voilà aussi pourquoi il est important et il est urgent de mettre en place un centre de contact. Mais voilà aussi pourquoi il faudrait redonner aussi envie aux agents du fisc de travailler, de leur offrir un environnement de travail qui soit serein. Et ce n'est pas le cas. Les bureaux Fort Wedel, Yuriko Bakas a visité l'été dernier. Ce sont des passoires thermiques en hiver. Ce sont des saunas en été. Il y a un projet de cité des impôts comme il en existe, comme la cité de la sécurité sociale au Kirchberg, mais on verra rien venir avant, je sais pas, peut-être 10 ans. Ça n'a jamais, la politique immobilière n'a jamais été une priorité. Donc je pense que Gilles Roth doit être jugé sur sa capacité à bien sûr persuader les contribuables, les entreprises, les particuliers qui sont égaux de l'un à l'info, que l'impôt est juste et proportionné, mais il sera aussi jugé sur sa capacité à trouver la bonne personne qui sera capable de diriger l'administration. Alors, on n'a pas d'informations, il n'y a rien qui filtre sur qui va conduire le destin de l'administration des contributions dans les 5 ou 6 ans ou 10 ans à venir.
Donc, le gouvernement président a écarté Pascal Toussaint, mais est-ce qu'il est envisageable que Gilles Roth fasse demi-tour?
Bien, alors, ça, c'est la grande question, parce qu'il semble, autant Yuriko Bakes ne s'entendait pas avec Pascal Toussaint, autant il semble quand même que le courant passe un petit peu mieux. On sait aussi que, par indiscrétion, que Pascal Toussaint a présenté sa candidature pour se succéder à elle-même. On sait qu'il y a aussi un autre membre du comité de direction qui vise le job. On a entendu de sources internes au ministère des Finances qu'il y a des candidatures qui sont intéressantes, ce qui veut rien dire. C'est un jeu à risque pour Gilles Roth, parce que le soutien des agents est indispensable. Pour le moment, ils sont totalement démotivés. Ils font le boulot, mais ils sont sous l'eau. Donc vraiment, si Gilles Roth doit prendre au sérieux le malaise du personnel et contribuer à ce que le nouveau directeur, voire le nouveau comité de direction, parce que je pense qu'il faut tout changer dans cette administration, il faut remettre du sang neuf, il faut mettre un vrai manager qui est aussi un profil de fiscaliste. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faut des managers et pas du micromanagement comme il en existe actuellement, où on s'interroge sur l'emplacement des clous pour accrocher un tableau plutôt que de définir une stratégie et embaucher les bonnes personnes au bon endroit.
En tout cas, c'est un défi de très grande taille, surtout avec un gouvernement qui veut faire des grandes réformes fiscales. En tout cas, on va suivre l'affaire et merci Véronique.
Merci Laurent.
D'Artikel über die Steuerverwaltung und Steueraffäre vom Jahr 2023 findet ihr auf reporter.lu. Links stehen in den Shownotes und am Artikel auf reporter.lu. Abonniere dich auf reporter.lu/abo, für nichts von der politischen Aktualität zu Lützebüsch zu verpassen. Mein Name ist Laurent Schmidt, aber mir war heute Véronique Pujol von reporter.lu. Die nächste Episode von Reporter On Record geht dann, wie gewinnt, nächste Freitag.